Je suis désolée, c'est encore moi. Hein. Vous n'êtes pas... Bon, mais ça va alors. Donc, je voudrais ce matin vous parler du caractère de nos enfants. On aimerait tous avoir des enfants dont chacun puisse dire, et pas rien que nous, mais tout notre entourage puisse dire, « Ah là là, il est formidable ton gamin, elle est bien ta fille, quel bon caractère !» Pas vrai? Ah oui. Puis on a l'impression que vraiment, notre enfant, ça va être la septième merveille du monde. Vous savez, c'est, ne vous sentez pas mal parce que c'est, tous les parents réagissent comme ça. Et les grands-parents aussi. Ils sont encore pires. Donc nous soyons parents, parents potentiels ou grands-parents, voilà, nous sommes concernés par ce que nous allons partager ce matin. Dans le caractère de nos enfants, on a une grande part. Des fois, on entend des parents... Enfin, j'ai vu défiler, en 47 ans de travail d'enseignante, j'ai vu défiler des enfants, des familles, qui disaient « Ah, de toute façon, il a le caractère de son père, il a un sale caractère !» Non mais, je suis désolée, le caractère d'un enfant, c'est un terrain. Et dans un terrain, ben, pousse ce que l'on sème. Donc on a beaucoup à semer dans le terrain du caractère de nos enfants. Alors, on va d'abord parler de l'amour. Je crois que c'est une des premières choses qui doit couler de notre cœur envers nos enfants. Donc, on a envie qu'ils soient pleins d'amour, qu'ils obéissent, qu'ils rendent service, qu'ils travaillent avec sérieux, etc., etc. Mais que leur donnons-nous? Vous savez, le véritable amour... C'est un trait de caractère qui en cache beaucoup d'autres. Bon, mon passage préféré dans la parole de Dieu, elle est magnifique. Mais j'aime particulièrement ces quatre versets de 1 Corinthiens 13 qui parlent de l'amour. Je trouve que là, quand on a réussi à relever ce défi ou qu'on travaille à relever ce défi, eh bien, il y a un sacré chantier dans notre vie qui se met en place. Quelqu'un qui aime ne pense pas qu'il est le nombril du monde. Et que le reste de l'humanité est là pour répondre à ses appels. Malheureusement, c'est un petit peu le propre de l'être humain. Et nos enfants, quand ils viennent, eh bien, quand ils viennent au monde, bien sûr, quand ils sont bébés, on s'occupe d'eux. On est là pour ça et on est là pour s'occuper d'eux pendant les 60 premières années de leur vie. Voilà. Donc, bon courage, Marion. Et Thomas, oui, c'est ça. Je me mélange avec les... Donc, voilà. Mais cet amour que nous allons donner aux enfants va les transformer. Il faut que nous leur donnions un amour tel qu'ils puissent se voir, non pas comme le nombril du monde, mais qu'ils puissent pouvoir mettre en pratique toutes les facettes cachées de l'amour. Que nos enfants puissent réfléchir aux conséquences de leurs actes sur leur propre vie, mais aussi sur la vie des autres. Et qu'ils ne soient pas égocentriques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... On est égocentrique. Ça fait partie de notre capital naissance. Quand nos enfants sont petits, la première année, bon, on va répondre à leurs exigences, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, on ne va pas courir. Bon, ma belle-mère avait une phrase que je trouvais amusante. Elle disait, ventre plein et derrière sec, il n'a pas à pleurer. Je pense que ça, c'est l'extrême là. Hein? Et puis, vous avez aussi des parents qui, dès qu'on entend, hop, ils se précipitent pour voir ce que les enfants ont. Il faut savoir trouver le juste milieu. Nos enfants ont besoin de nous, on ne va pas les laisser hurler, pleurer, mais savoir au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils prennent quelques mois, qu'ils arrivent au bout de leur première année, savoir aussi leur apprendre à patienter, savoir aussi leur apprendre à attendre. Bien sûr, bon, quand c'est des tout petits bébés, que ça pleure parce que c'est l'heure de la tétée, il faut pourvoir leurs besoins. Mais voilà, la première année, nous devons aussi leur manifester justement cet amour de façon équilibrée et que notre façon de manifester l'amour évolue avec la croissance de nos enfants. nous devons leur mettre des limites. Vous savez que le manque de limites entraîne une tendance à l'égocentrisme qui peut devenir une forme de tyrannie de la part de certains enfants par rapport à leurs parents. Il n'y a pas de limite. L'enfant, il ne sait pas où il peut s'arrêter. Il y avait une expérience qui avait été faite par des scientifiques au service de la pédagogie. Et ils avaient mis un grand aquarium, en verre évidemment, et puis ils avaient mis plein de vous savez, les arbres, les algues, les trucs, les machins, et les poissons évoluaient tranquillement, là, et ils allaient partout, ils passaient entre les différents objets qui étaient dans l'aquarium. Ils avaient l'air épanouis et équilibrés. Et puis, ils ont fait l'expérience de tout enlever. Il n'y avait que l'eau et la transparence du verre. Mais les poissons, ils ne savaient plus où ils habitaient. Parce que en nageant, certains ont heurté la paroi. Et puis, alors donc, le réflexe était de se tenir tous au centre, agglutinés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyaient pas les limites. Nos enfants ont besoin de limites. Dès qu'ils sont petits, il faut leur apprendre. Au fur et à mesure, c'est progressif, mais n'attendons pas qu'ils aient 6-7 ans pour commencer à mettre des limites. C'est trop tard. C'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour nous. Quand on aime, on respecte. Moi, j'ai aimé mes enfants, nous avons aimé nos enfants, nous les aimons toujours maintenant. Voilà. Ils ont 37 et 29 ans, c'est plus la même façon de les aimer, enfin, si c'est la même façon de les aimer, mais c'est plus la même façon de leur manifester, hein. Mais nous les avons toujours respectés. Nous avons respecté leurs besoins, leurs désirs, dans la mesure où ils n'étaient pas nocifs pour eux-mêmes. Et l'enfant doit savoir que quand on aime, on respecte. Hein. Tu dis « Maman, je t'aime », ok, mais la forme d'amour, c'est aussi l'obéissance. Un enfant qui ne respecte pas les limites, il devient manipulateur. Et il essaie de contrôler ses parents. Alors là, il y a le chantage affectif, il faut arriver à ses fins. Et nous, des fois, on se fait avoir comme des bleus. Parce qu'en fait, nous confondons amour et faiblesse. Je me souviens d'une personne qui m'est proche, et elle me disait « j'aime pas que ma fille pleure en s'endormant. » Donc, si la petite, elle voulait gazouiller jusqu'à minuit, elle restait à côté jusqu'à minuit parce qu'elle me dit « j'ai peur que demain matin, elle se réveille, elle ne m'aime plus. » Bon. Ça m'a laissé perplexe. Mais voilà, moi, je n'étais pas encore maman, donc je ne pouvais rien dire. Mais je me rends compte, en fait, que ce n'est pas une bonne chose. Hein. Voilà, je te fais un câlin, mon bébé, je te mets dans ton lit. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Et je te gratouille le dos 2 minutes. Je te mets une petite lumière ou une petite musique. Voilà. Mais maintenant, voilà, pour toi, c'est l'heure de dormir. Parce que les enfants se rendent compte. Alors, bien sûr, nous, on est fatigués. Alors, la fatigue est là. Il y a les pressions familiales, les pressions professionnelles. On a vraiment envie d'avoir la paix. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On capitule. On est au supermarché avec notre petit Benjamin, petit bambin blond magnifique, vous savez, dans le siège du caddie. Et puis, il veut ça. Et on lui dit non, maman, t'achètes pas ça. Ou papa, t'achètes pas ça. Et vous sentez qu'il commence à gonfler ses poumons. Et vous pressentez le hurlement à venir. Vous n'avez pas envie que toute la galerie marchande pose les yeux sur vous en disant « Ah là là, qu'est-ce qu'il est mal élevé, cet enfant !» Qu'est-ce que vous faites ? Vous attrapez le machin et vous lui mettez dans les doigts. Il ne faut pas rougir parce qu'on l'a tous fait. Donc, l'enfant, alors après, il se confond à l'excuse. Il dit « Maman, je t'aime, tu es la meilleure des mamans, bouzou, bouzou, poutou, poutou !» Et cette vague d'affection, ça vient et puis on a l'impression d'avoir aimé notre enfant. Mais en fait, non, on ne l'a pas aimé. On l'a aimé. Mais pas bien. Pourquoi ? Parce que quand on aime notre enfant, on doit penser à l'impact de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit sur son avenir. Si je cède aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va hurler plus fort. Pourquoi ? Pour que je cède aussi. Et après demain, et ainsi de suite. Quand ça arrive une fois, ponctuellement, parce que voilà, vous êtes mal pris, ou vous êtes. Bon, ça peut arriver. Mais si ça se répète tous les jours, eh bien, nos enfants, ils ont compris la façon dont nous fonctionnons. Et ils vont user et abuser de leur stratégie. Donc, alors, on veut que nos enfants soient heureux, mais en fait, on en fait des coquins capricieux. Et des enfants qui ne sauront pas maîtriser leur colère jusqu'à ce qu'on leur cède. Bon, ça nous arrive à tous. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que aimer nos enfants ? C'est se projeter dans leur avenir pour le préparer à gérer leur avenir. Aimer nos enfants, c'est aussi être des modèles. Aimer nos enfants, c'est aussi être près d'eux pour avoir des moments de qualité avec eux. Je trouve que, avec le temps qui passe, la vie familiale, on la grignote, vous savez, de tous les côtés. On coupe un peu ici parce que, voilà, il y a tellement de choses à faire, le planning est tellement plein que, bien, la vie familiale, alors bon, pour compenser, on va offrir des cadeaux à nos enfants. Mais rien ne remplace un temps partagé autour d'un jeu de société, une balade dans la forêt, apprendre à faire du vélo. Maintenant, vous avez les enfants, alors le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, ils vont à l'école. Ils arrivent à la garderie, ils mangent à la cantine, ils restent à l'étude du soir, quand ce n'est pas une nounou qui va les chercher. Le mercredi, on les met au centre aéré. C'est bien pratique quand on travaille, et je reconnais, je suis entièrement d'accord. Mais quand est-ce qu'on va avoir des moments de qualité avec nos enfants ? Il y a des choix à faire, il y a des priorités. Donc ça aussi, c'est aimer nos enfants. Les écouter, parler avec eux, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils désirent. Prendre la meilleure décision en leur expliquant nos choix. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un enfant et même pour un adulte, quand on vous dit « tu feras comme ça parce que j'ai décidé ». Mais pourquoi est-ce que ton idée est meilleure que la mienne ? Pourquoi ? Mais expliquons aux enfants. Tu vois, on pourrait faire ça. Mais regarde, tu vois, les conséquences que ça pourrait avoir dans ta vie. Et les enfants sont capables de comprendre. Ils ont seulement besoin qu'on leur explique, qu'on soit proche d'eux. Vous avez des ados parfois qui demandent des choses qui sont... En espérant qu'une chose, c'est que les parents disent non. Juste pour savoir qu'ils sont aimés. Ma nièce, bon, maintenant, elle est maman de 3 enfants. Elle a bien mis les pieds par terre. Mais elle a eu une de mes nièces, elle a eu une adolescence assez houleuse. Et voilà. Et bon, un jour, elle était invitée à un anniversaire. Elle devait avoir 17 ans. Ma sœur lui a dit, je viens te chercher à minuit. Alors bon, elle est arrivée à l'anniversaire. Évidemment, c'est comme pour Cendrillon. Ça a passé trop vite, hein. Minuit. Et donc, elle dit, ouais, j'en ai marre. Elle dit à une autre fille qui était là, ma mère va venir me chercher à minuit. Ouais, j'ai pas de liberté, je peux rien faire. Et l'autre fille lui a dit, tu as tellement de chance. Parce que moi, je pourrais ne pas rentrer de la nuit. Je pourrais dormir sous un porche, je pourrais partir avec n'importe qui. Mes parents, ils s'en fichent. Et je parle poliment. Nos ados, parfois, ils demandent des choses, ils nous provoquent. Parce qu'ils savent que si nous les aimons, nous n'allons pas leur donner cela. Alors n'ayez pas peur de dire non quand vous sentez dans votre cœur que vous devez le faire. Donc, aimer nos enfants, ce n'est pas faire leurs 4 volontés, s'endetter pour leur acheter la dernière... alors, je suis complètement déphasée. Hein. Moi, j'en suis encore restée à la DS et à la Nintendo. Voilà, ça a dû évoluer depuis. Hein. Mais voilà, ce n'est pas ce qu'ils attendent de nous. Ils ont besoin de parents relationnels. Ils ont besoin de parents qui les aiment, qui les câlinent, qui leur disent qu'ils les aiment, qui parlent avec eux, qui jouent avec eux. C'est ça, le véritable amour dont nos enfants ont besoin. Alors, si vous n'êtes pas comme les parents de Gaëtan, qui habite au bout de la rue, là, et qui a tout ce qu'il demande, c'est pas tout ce qu'il lui faut. C'est tous les gadgets dont il a envie. Votre fils, il rentre, il dit, ah ouais, maman, tu sais, Gaëtan, il a eu la dernière console, je pourrais l'avoir. Ne culpabilisez pas parce que vous n'êtes pas comme ces parents-là. Soyez les parents que Dieu veut que vous soyez. Puisez votre inspiration dans la parole de Dieu. Et soyez proche de vos enfants. Vous savez, quand moi, je suis d'une génération déjà bien... nous sommes parmi les doyennes, n'est-ce pas, Huguette, Marguerite, de cette communauté. Mais jamais... Ah oui, amitié aussi, et voilà. On n'a pas eu, quand on était petite, tous les gadgets et trucs machin, mais est-ce qu'on n'a pas été aimé pour autant ? Peut-être mal, parce que nos parents ne nous ont peut-être pas aimés de la bonne façon. Ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants. Mais on n'a pas besoin de transformer notre maison en centre, en magasin de jouets pour que nos enfants soient heureux. Alors, un autre trait de caractère dans lequel nous intervenons, c'est la responsabilité de nos enfants. On voudrait les voir grandir et devenir responsables. Alors donc, ça veut dire bien faire ses devoirs, être premier à l'école. Maintenant, il n'y a plus de premier, mais bon, voilà. Hein, réussir son bac avec mention, tant qu'il y a encore un bac. Hein, être digne de confiance et tout ça. On a vraiment envie que nos enfants soient responsables. Mais qu'est-ce que c'est que la vraie responsabilité ? C'est prendre sa vie en main. Savoir que Dieu nous laisse le choix. Combien de fois j'ai répété à mes élèves de CM2 qui se préparaient à aller au collège, choisis le bien et non le mal. Choisis la vie et non la mort. Nos enfants doivent apprendre qu'ils ont le droit de choisir, mais qu'il y aura des conséquences à leur choix. La Bible dit aussi, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et personne d'autre que moi ne peut prendre ma vie en main, décider pour moi. Il n'y a que moi qui peux le faire. C'est cela, être responsable. Nos enfants doivent savoir qu'ils devront rendre des comptes. Bon, bien sûr, toujours proportionnellement à leur âge et à leur âge. Donc, ils devront rendre des comptes non seulement à nous, les adultes, les enseignants, les parents, les responsables, mais aussi à Dieu, surtout à Dieu, hein, pour ce qu'ils auront fait de leur vie, des talents que Dieu y a placés, pour la façon dont ils auront travaillé à les faire fructifier, pour les relations qu'ils auront entretenues, pour ce qu'ils auront fait. Nos enfants doivent savoir que même quand nous, on n'est pas là, Dieu les voit. On a eu des expériences, nous, avec... on avait notre fils, quand il est parti en sixième, donc c'était vraiment le petit garçon, gentil, poli, pas de gros mots, rien du tout. Et puis, on était fiers. Vous savez, ça nous caressait dans le sens du poil. On dit, on a réussi. Puis un jour, il est parti en voyage en Angleterre avec sa classe. Et puis Alain s'était cassé la jambe, donc c'est moi qui l'ai conduit. Il descendu de la voiture quand il est arrivé au collège. Et puis, moi, je sors son sac et j'entends sa voix, une voix, qui débite un chapelet de gros mots. Ben, je dis, mais c'est pas possible. J'ai fait comme ça, hein. Mais non, c'était bien sa voix. En fait, il était le petit garçon caméléon. Avec papa et maman, il était comme il voulait que nous, on voulait qu'il soit. Mais quand il était avec les copains, eh bien, il était comme les copains. Est-ce qu'on lui avait enseigné qu'il aurait à rendre compte pour tout ce qu'il fait ? Pas seulement pour ce qu'il fait devant nous. Je ne sais pas si on lui avait enseigné ça. Bon, si on lui avait enseigné, il ne l'avait pas entendu toujours. Hein ? Donc, leur vie, la vie de nos enfants nous a été confiée. Et à notre tour, nous allons leur confier cette responsabilité de gérer leur vie au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais nous allons le faire en veillant sur eux. Alors, concernant le mot « veiller », Dieu n'a pas fait de nous des policiers, mais des sentinelles. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le policier surveille. Pour employer un mot qui n'est pas très... On va dire le policier flic. Il fouine son nez partout, il fouille dans la vie des gens. Et j'ai rien contre les policiers, ils font leur travail. Mais c'est juste la notion que je veux faire passer. Tandis que la sentinelle, eh bien, elle veille. Elle regarde loin pour voir s'il n'y a pas un danger. Et un jour, nous étions en vacances à La Rochelle, il y a des années, on allait se balader sur les animations, sur le port le soir. Il y avait une dame qui vendait des galets avec des jolies phrases écrites. Moi, j'ai toujours aimé les jolies phrases. Et sur un galet qu'on a acheté d'ailleurs et qui est toujours dans la salle à manger chez nous, hein, il y avait écrit ceci, « Notre Dieu est un Dieu qui veille et non qui surveille, car on surveille au nom de la loi et on veille au nom de la tendresse. » Et Dieu nous demande de veiller sur nos enfants au nom de la tendresse. Quand nous les accompagnons dans leur choix, en leur expliquant bien les conséquences que leurs choix vont entraîner, faisons-le au nom de la tendresse. Les ados, parfois, ils mettent leur vie en danger. Dans ces cas-là, bon, on va les avertir, mais aussi parfois il va falloir les protéger d'eux-mêmes et de tous ceux qui essayent de tirer les ficelles de leur vie, ce que nous ne voyons pas au quotidien, au collège. Voilà, il faut qu'on apprenne à nos enfants à devenir responsables. Nous ne serons pas toujours avec eux. Dieu le sera toujours. Et ça, ils doivent le savoir. Donc, les responsables de quoi ? De leurs sentiments, de leurs attitudes, de leurs comportements, de leurs choix, de leurs pensées, de leur quotidien, seconde par seconde. Vous connaissez tous la petite phrase, on a dû le dire un million de fois dans notre vie, « C'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est pas ma faute. » Ça, c'est la parade incontournable. Elle est vieille comme le monde, hein. Mais voilà, nos enfants doivent savoir qu'ils doivent assumer les choix et les conséquences. Et ça ne fait pas partie de notre capital de naissance. C'est quelque chose qu'on apprend. Et le plus tôt ils l'apprendront, mieux ce sera. Nous devons donc leur apprendre à être responsables. Ça sera progressif, des petites responsabilités au fur et à mesure que l'enfant va grandir, mais voilà, même dans le travail à la maison, hein, vous allez confier la responsabilité de mettre le couvert. Des fois, nous, en tant que maman, on dit, mais j'ai 10 fois plus vite fait de le faire moi-même. Bien sûr. Hein. Puis ramasser la belle assiette en porcelaine qui vient de votre arrière-grand-mère avec la balayette et la pelle à poussière parce que, voilà, les petites mêmes maladroites l'ont laissé tomber, ça fait de la peine. On aurait ce réflexe, mais nous devons apprendre aux enfants à devenir responsables. Donc le point rassurant de cette affaire, c'est que nos enfants sont faits dans une argile qui est plus malléable que celle dont nous sommes faits, nous les adultes. On est dans une terre un peu dure, un peu vieille, un peu moche. Mais si nous pétrissons l'argile de nos enfants avec de l'eau appelée amour, alors on arrivera à faire d'eux ce que Dieu veut qu'ils soient. Nous devons aussi apprendre à nos enfants qu'ils sont libres. Ils peuvent évoluer dans la liberté. Alors ne paniquez pas, les papas, les mamans, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. C'est juste la liberté contraire de l'esclavage. Justement. Personne ne peut les empêcher de prendre les bonnes décisions. Ils ne doivent pas subir la vie. Et chaque jour qu'ils se lèvent ne commence pas par la fatalité. Vous savez, bon, tant qu'ils sont petits, on les a... Bon, ils parlent, on voit l'effet de... On voit les effets de leur journée, dans leur regard, dans leur humeur. Mais quand ils deviennent ados, ils cachent beaucoup de choses. Et quand le passage au collège, pour ceux qui partent dans le public, c'est parfois quelque chose qui est très, très dur. Donc, les enfants doivent savoir qu'ils sont libres, contraire d'esclaves. Personne ne peut les obliger à faire des choses qui sont mauvaises. Et ça, on doit leur dire. On doit le leur dire quand ils sont petits, quand ils grandissent, ils ont 6 ans, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans. Tu n'es pas obligé de faire comme tes copains. Si tu penses que ce n'est pas bon, tu ne le fais pas. Même pas pour être reconnu ou pour garder une amitié. Alors, je me souviens d'un petit garçon à l'école chez nous. Tous les matins, au goûter de 10 heures, il avait une carotte dans sa boîte à goûter. Alors, d'autres enfants, ils avaient du pâté. Il y avait des choses très surprenantes dans les boîtes à goûter, des chips, toutes sortes de choses. Et lui, il avait sa carotte. Les autres enfants, ils disaient, oh, mais pourquoi tu as une carotte dans ta boîte à goûter ? C'est ma mère qui m'oblige. Elle est méchante, ta mère. Ah oui, alors. Hein. Ce que ce petit garçon ne disait pas, c'est que sa maman lui avait expliqué qu'il était un peu rond et que les gâteaux ou les chips n'auraient pas aidé à perdre son petit ventre roux. Là. Tandis qu'une bonne carotte pleine de vitamines, elle lui permettre d'atteindre le repas de midi. Voilà. Et ce qu'il ne disait pas non plus, c'est qu'il raffolait des carottes crues. Simplement parce que s'il était différent, son goûter était différent de ceux des autres, alors il se posait en victime. Et c'est dommage. Nous devons apprendre à nos enfants qu'ils ne sont pas victimes. Ils font des choix. Nous leur proposons des choses, ils comprennent ce que nous leur proposons, ils l'acceptent, et voilà, c'est bon pour eux. La liberté proposée par Dieu pour ses enfants, c'est de dire oui ou de dire non en étant prêt à assumer les choix et les conséquences. Nos enfants ont besoin d'apprendre que la vraie liberté, c'est juste de dire oui parce que c'est bon pour eux et non parce que c'est mauvais. Ça, c'était quelque chose... Qu'est-ce que j'ai seriné ça à mes élèves en CM2 ? Ils allaient partir au collège, on n'avait pas de collège chrétien, nous, on avait juste le primaire. Et franchement, alors on parlait surtout de la cigarette et de la pornographie, parce que c'était des choses très... Bon, la drogue aussi. Et voilà, et je disais à un enfant, on va te proposer une cigarette. Tu veux une clope ? Non, je ne peux pas. Je ne fume pas parce que je suis chrétien, je n'ai pas le droit. Ça, c'est un enfant victime. Ou alors, tu veux une clope ? Ben non, dis donc, moi, ça rend malade, ça détruit, moi j'ai pas envie d'être malade, je veux garder ma bonne santé. Ça, c'est un enfant libre. Nous devons apprendre ça à nos enfants. Ils ne sont pas obligés de faire comme tout le monde. On pense que la vraie liberté, c'est de faire n'importe quoi. Pas du tout. Il faut vraiment leur donner cette notion de vraie liberté. Parce qu'elle fait partie d'une bonne formation du caractère. Et elle fera des enfants qui seront droits dans leur boîte quand ils seront adultes. Parce qu'ils sauront dire oui ou dire non quand ils sentent que c'est bon ou que ce n'est pas bon pour eux. Je voudrais vous parler aussi des initiatives. Vous savez, nos enfants, ils ont de la créativité. Ils ont des initiatives. Bon, peut-être que vous avez déjà expérimenté dans votre couloir repeint en blanc ou en blanc cassé, magnifique, les jolis dessins aux feutres. Franchement, c'est un peu pâle. Hein? Donc voilà, on va mettre un peu de couleur de gaieté là-dedans. Bon, maintenant, vous avez l'éponge Monsieur Propre là, qui efface tout, paraît-il. C'est bien. Mais voilà, donc les initiatives de nos enfants, ça fait partie de leur croissance. Le fait qu'ils grandissent, ben, ils vont avoir des initiatives. Pourquoi ils n'en auraient pas et que nous, on en aurait ? Pourquoi c'est toujours papa et maman qui auraient des nouvelles idées, après tout, hein ? Donc, je vais vous raconter encore une histoire que j'ai vécue avec un de mes élèves. Donc, il s'appelait Jeffrey. Et puis, il avait un gros rhume. Et ce n'était pas une maladie à le clouer au lit, mais voilà. Il n'était vraiment pas suffisamment bien. Et puis, sa maman a dit non, je ne l'amène pas à l'école. Elle était instite, elle travaillait avec moi. Et son papa travaillait, il était gérant d'un magasin qui était juste en dessous de l'appartement. Donc elle a laissé Jeffrey à la maison, avec sa boisson préférée, du jus de raisin, puis des livres et tout. Son papa montait régulièrement. S'il y avait quoi que ce soit, l'enfant pouvait descendre. Voilà. Donc, et au bout d'un moment, Jeffrey, il en a eu marre. Il s'ennuyait, donc il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Et sa maman avait dit, oh là là, j'ai une pile de linge à repasser. Hein. Pff, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Hein. Il s'est dit, voilà. Je vais repasser le linge pour maman. Donc, il a branché le fer. Et puis, il a senti. Et franchement, il n'aimait pas trop l'odeur de la lessive que maman utilisait. Par contre, il raffolait du jus de raisin. Donc, il a voulu joindre l'utile à l'agréable. Il a sacrifié sa boisson fraîche. Et il a mis le jus de raisin dans le réservoir du fer. Et puis, il a commencé à repasser. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça a dû donner. Voilà. Hein ? Mais il avait pris une initiative, et sa motivation, elle était bonne, il voulait aider maman. Il avait sacrifié son jus de raisin pour que le linge sente bon. Franchement, maman allait être trop contente, il avait tellement hâte qu'elle rentre pour voir son bonheur. Donc avoir les initiatives, je vais vous raconter la suite après. C'est un point fort du caractère d'un enfant. Vous savez, vous avez des enfants qui sont tellement pâles, pas pâle de peau, hein. Mais vous les remarquez même pas. Je me rappelle, au sein d'une classe, il y avait des enfants qui passaient l'année. Bon, je savais qu'ils étaient là, je corrigeais leur cahier, je connaissais leur nom, mais rien ne m'avait marqué chez eux pendant l'année. C'était des enfants qui étaient transparents, qui n'avaient pas de personnalité. Les enfants qui ont une personnalité, ils le montrent. Bon, tant pis, hein, pour nous. Alors, mais ne brimons pas l'esprit d'initiative des enfants. Alors, pour Jeffrey... Quand sa maman, qui s'appelle Mireille, est rentrée à la maison, Mireille, elle est plutôt d'un caractère volcanique. Quand elle est rentrée à la maison, bon, papa était passé entre-temps, il avait fait arrêter les dégâts, mais quand elle est arrivée, qu'elle a vu ça, elle a pris le téléphone, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je vais tuer Jeffrey, je te dis que je vais le tuer !» Bon, je la connaissais, donc je l'ai laissée, blablabla. Bon, puis à la fin, on a discuté un peu plus posément. Quand elle s'est calmée, elle est allée voir son fils. Elle lui a dit, écoute, tu vois, hein, c'est gentil ce que tu as voulu faire, mais je vais t'expliquer. Le fer à repasser, il ne boit que de l'eau. le jus de raisin l'a rendu malade. Donc il va falloir l'envoyer se faire soigner. Il va falloir que tu me donnes un peu de sous pour payer les frais médicaux du fer. Donc elle a prélevé, je ne sais pas, c'était des francs à l'époque encore, hein, elle a prélevé un tout petit pécule chaque mois sur l'argent de poche de Jeffrey, juste pour qu'il comprenne que voilà, il avait fait un choix. Elle l'a remercié pour le fait qu'il ait voulu repasser le linge. Bon, après, il a fallu relaver tout le linge parce que ça avait caramélisé et tutti quanti. Hein. Voilà. Alors, ça n'a pas tué Jeffrey. Hein. Je veux dire que maintenant, il va avoir 28 ans, qui mesure plus de 2 mètres et qui pèse plus d'un quintal. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'il se rappelle encore de son histoire du fer à repasser. Donc, pardon ? Ah, je ne sais pas s'il ne repassera plus jamais, mais toujours il se mettra de l'eau. Donc les enfants qui ont pu prendre des initiatives, même s'ils ont dû payer parfois les conséquences, ben voilà, ils vont aller au bout de leurs rêves. Ils vont poursuivre leur but, ils ne vont pas attendre que quelqu'un le poursuive à leur place. Donc c'est vrai que parfois les initiatives de nos enfants, ça nous caresse pas dans le sens du poil, ça nous fait perdre du temps, parfois des sous, ça nous énerve, ça nous agace, mais ça fait partie de leur croissance. Pas toujours facile d'être parent, mais quel privilège. Vous vous rendez compte que quand on pense à des grands hommes de Dieu, ils ont eu un papa, une maman, peut-être qu'ils ont fait des bêtises, mais parce que les parents les ont accompagnés dans leur destinée, ils sont devenus ce que Dieu voulait qu'ils soient. Alors quand vos enfants font des trucs qui vous... Pensez à ça. Dire plus tard, vous serez fiers d'eux. Vous pouvez déjà être fiers d'eux maintenant, d'ailleurs. Alors, on va parler maintenant du monde virtuel. Moi, je suis vraiment outrée de voir que maintenant, on ne joue plus. Alors, excusez-moi, hein, je ne suis pas à la page. Mes enfants sont grands, il y a longtemps qu'ils ont quitté la maison. Je suis restée à l'étape de la DS. C'est l'antiquité de je ne sais quelle console maintenant. Mais j'ai été outrée. Une fois, on avait fait un petit tour de table à l'école primaire. Enfin, pas tour de table, on était en rond. Et puis on avait dit aux enfants, allez, vous allez nous dire à quoi vous avez joué ce week-end. Il y avait plein de petites filles très fifi, vous savez, avec des nœuds roses, des petites bottes roses. Et moi, je les voyais avec une poupée dans les bras, une dinette et patati patala. Et voilà. Et puis on lui dit, et toi, Naomi, à quoi tu as joué ? À la DS. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon bref. Et toi, comment elle s'appelait ? Shania, sa sœur. Et toi, avec quoi tu as joué ? À la DS. Et vous avez fait le tour. Alors, les garçons, c'était plus les voitures, c'était que des trucs, des machins virtuels, des consoles, des choses comme ça. Mais je dis, mais attends, mais où on va ? Mais où on va ? Il est où le temps où les petites filles apprenaient à mettre des couches à leur bébé, elles leur donnaient le biberon, les poupées qui faisaient pipi sur le pot ? Mais il est où ce temps-là ? Bon, c'est vrai. On ne va pas faire radio nostalgie, hein, mais... Ça existe encore ? Ah, tu me rassures. Mais pourquoi ça existe ? Parce que les parents provoquent ça. Si au lieu d'acheter des DS à nos enfants, on leur achetait une poupée ou une voiture ou un train électrique ou je ne sais trop quoi, ben, et qu'on jouait avec eux, nos enfants s'intéresseraient à ces choses-là. Alors, ne baissons pas les bras. Ne prenons pas une nounou. En nounou, ne prenons pas la télé ou la console ou l'ordinateur. Rappelons-nous que nos enfants doivent avoir les pieds par terre, être dans la vraie réalité. Vous savez, dans ces jeux vidéo, il y a toujours quelque chose au dernier moment, tu vas te fracasser contre un mur, tu as le super-héros qui arrive, il t'enlève comme ça, et les enfants ils se disent, moi ça ne m'arrivera jamais. Malheureusement, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Et ça, ils doivent l'apprendre. Ça fait partie aussi de notre devoir envers eux, de ce que Dieu nous demande. Vraiment, aidons nos enfants à avoir les pieds par terre. Montrons-leur les magnificences de la nature, de la création. J'ai eu l'occasion, il y a 2-3 ans, de parler avec une enseignante qui était déjà adulte. Et puis, on parlait de la basse-cour. Je commentais une leçon sur la basse-cour. Je lui donnais des pistes pour la faire. Et donc, la poule pond des œufs qui donnent des poussins. Mais je dis, tu sais, tous les œufs ne donnent pas des poussins. Ce que tu achètes à Leclerc et que tu mets dans l'omelette, ça ne donne pas des poussins. Ah oui, elle me dit, c'est vrai. Et puis, bon, on a parlé de comment, pourquoi certains œufs donnaient des poussins et d'autres pas. Ben, je dis parce que Madame Poule a fait un gros câlin avec Monsieur Coq. Là, les œufs, on va les couver et puis ils vont donner des poussins. Alors elle me dit, ah, je ne savais pas, je croyais que le coq, il mettait son spermatozoïde sur la coquille de l'œuf. Bon, pourquoi ? Personne n'avait pris le temps de lui expliquer comment ça marchait. Personne. Et dans ces jeux vidéo qui avaient accompagné sa croissance, elle n'avait pas trouvé ça. Dieu a fait une nature merveilleuse. C'est le meilleur jeu vidéo qui puisse exister. Parlons à nos enfants de la nature, promenons-les, expliquons, répondons à leurs questions. Ne prenons pas des babysitters virtuels comme ça, c'est bien. Hein. Mais amenons-les, conduisons-les dans la réalité. Dieu veut en faire des hommes et des femmes qui sauront apporter leur aide aux autres. Il faut qu'ils vivent vraiment avec les pieds sur terre. Parfois, ils font des choses, ils attendent au dernier moment que quelque chose vienne les sauver, comme dans leur jeu préféré. Et nous, on se précipite pour leur éviter le mur. Vous savez, pour qu'un enfant fasse attention, se méfie d'un mur, il faut qu'il ait tapé la tête dedans d'abord. Et c'est pas toujours bon. Bon, soyons là avec la boîte de secours. Hein, le mercurochrome, non, c'est plus du mercurochrome, maintenant c'est de l'évosine ou je ne sais plus ce qu'on met. Mais voilà, les pansements et tout ça, hein, le doliprane. Hein, mais n'évitons pas à nos enfants la souffrance. Il faut bien qu'ils l'apprennent. La Bible nous dit que Jésus a pris l'obéissance dans la souffrance. Bon, on ne va pas les envoyer se faire crucifier. Jésus l'a fait, c'est bon. Hein, mais parfois, il faut qu'ils apprennent aussi que les conséquences de leurs actes, elles peuvent être... avoir un côté douloureux, émotionnellement ou physiquement même. Hein? Quand vous avez des petits doigts qui veulent absolument mettre la main pour toucher la flamme, vous allez dire une fois, deux fois, trois fois, ne touche pas, tu vas te brûler. Puis quand vous allez le dos tourner, voilà. Alors ne culpabilisez pas, vous avez averti l'enfant. Maintenant, il a touché, il sait que ça brûle. Il ne va pas y recommencer demain. Donc... il faut que les enfants, que nous habituions nos enfants à vivre dans la vraie vie, dans la réalité. Et les conséquences désagréables d'un acte irréfléchi, ben, ça va être une bonne école. La prochaine fois, ils vont réfléchir. Vous savez, il y a des adultes qui ont du mal encore à vous avez parfois des adultes, surtout, j'ai remarqué, plutôt chez les dames, hein, vous avez des dames qui restent des enfants. C'est quand vous les entendez parler, quand vous les entendez raisonner, vous vous dites, mais moi je crois que quelque part, on ne leur a pas appris à être responsable, à prendre des initiatives, à vivre dans la vraie vie. Et vous savez, il n'est jamais trop tard. Même si vos enfants sont grands, commencez. La tâche sera peut-être moins facile parce que c'est plus dur quand l'argile durcit un peu. Hein. Mais voilà, au nom de la tendresse, au nom de l'amour, vous pouvez y arriver. Donc, aidons nos enfants à apprendre que la réalité... est là, et que, voilà, nous sommes là pour veiller sur eux, mais nous ne pouvons pas choisir à leur place, nous les accompagnerons, et puis, quand ils se prendront en main, eh bien, ils vont se construire une vie qui sera une belle vie. Parce qu'ils feront les bons choix. Alors, on va parler de croissance maintenant, nos enfants grandissent. On peut très bien grandir en dehors et puis rester petit en dedans. Et ça, des fois, nous, les parents, surtout les mamans, on a tendance à ne pas vouloir laisser grandir nos enfants. Vous savez, c'est tellement mignon quand ça dit « aïe, 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 ou les petits mots gentils. Moi, l'autre jour, en faisant du rangement à la maison, j'ai retrouvé l'album de naissance de notre fils il y a 37 ans. J'avais noté ses premiers mots. Bon, mais vous avez des parents qui continuent à parler le langage bébé parce que c'est mignon. Mais il faut aider nos enfants à grandir. Et les aider à grandir, c'est justement les pousser, au fur et à mesure qu'ils prennent des années, à faire des choses de plus en plus, enfin des choses qu'on faisait pour eux avant. Nous parlons de Jésus. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il n'a pas poussé comme un poireau en restant un bébé en dedans. Non. Tout grandissait en harmonie. Et nous avons vraiment envie que nos enfants grandissent comme ça. Vous savez, quand j'étais instite dans le public, un jour, un petit garçon qui était d'une famille asiatique, enfin bon, c'est pas parce que c'était des Asiatiques, mais je me souviens de cette famille-là. Et il va aux toilettes, donc bon, il était réglé comme du papier à musique. Ce jour-là, il a eu un dérangement. Donc il me dit, j'ai mal au ventre, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Bon, j'ai compris que ça urgeait, j'ai dit, ben vas-y. Il me dit, là, il faut que tu viennes avec moi. Mais je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il faut que tu m'essuies. Il avait 8 ans. Et voilà, c'est encore chez lui, sa mamie ou sa maman l'accompagnait aux toilettes pour l'essuyer quand il avait fini. Après, j'ai parlé avec la maman. Elle me dit, oui, mais ça nous permet de vérifier que son transit fonctionne bien. Je dis, mais attends, quand il aura 15 ans, tu vas encore continuer à faire ça? Vous voyez, il y a des choses comme ça, où nous-mêmes, on doit prendre conscience que nos enfants grandissent. Donc, qu'est-ce que c'est que les aider? Bien, c'est quand pour grandir, moi, je compare ça à un mur que l'on bâtit. Chaque pierre, ça fait monter le mur. Donc, on bâtit sa vie comme on bâtit un mur. Alors, apprendre une leçon, travailler une relation, améliorer un comportement, c'est des briques qui font monter le mur d'une vie. Par contre, la paresse, la négligence, l'irrégularité dans l'effort, toutes ces choses que les enfants cultivent, c'est comme le lierre, vous savez. Le lierre, ça, moi, j'admirais les maisons qui étaient habillées de lierre. Et puis, un jour, on n'était même pas mariés, j'avais des amis, parents d'élèves, et elle me dit, ah, le week-end prochain, on va arracher le lierre qui est sur la maison. Oh, je dis, mais pourquoi? Elle était magnifique. À l'automne, elle était toute rouge. Au printemps, elle était toute verte. Elle me dit, oui, mais le lierre, les racines, ça décèle les briques, ça rentre entre les briques, ça fragilise le mur. Puis en plus, il y a plein de bestioles qui habitent. Quand on ouvre la fenêtre, les petites araignées, tout ça, ça rentre. Et les petits rats. Hein. Donc, voilà. Et toutes ces mauvais côtés que parfois on laisse passer parce qu'on dit, oh, il est petit. Oh, voilà. C'est comme le lierre qui s'accroche au mur de leur vie et qui déstabilise les briques. Et qui risque d'entraîner un effondrement. Donc, un caractère solidement bâti et régulièrement débarrassé des plantes parasites donnera un enfant puis un adulte capable de gérer ses émotions, d'attendre patiemment le fruit de son travail. Vous avez déjà essayé de faire du jardinage avec des petits? Ils plantent et le lendemain, et avec leurs doigts, ils vont voir ce qui se passe en dessous. Donc voilà, ben après, ma cache, hein. Ça ne poussera plus le radis ou je ne sais trop quoi. Il faut qu'ils atteignent patiemment le fruit de leur travail, qu'ils acceptent de perdre, qu'ils sachent reconnaître leurs erreurs, qu'ils sachent changer de trajectoire, qu'ils sachent pardonner. Pardonner et puis le vrai pardon, celui où on ne revient pas sur pas le pardon congélateur, hein. Vous savez, quand vous pardonnez à quelqu'un, mais vous mettez au congélateur, puis à la crise suivante, vous ressortez, vous dites, ah oui, il y a déjà 3 mois et 6 jours, tu m'as fait ça. Non, le vrai pardon, apprenons à nos enfants à pardonner. Et qu'ils sachent aussi reconnaître qu'il a participé à des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Mais toujours ça, au nom de la tendresse. On ne peut pas changer la réalité. Les murs, ils sont là. Mais on peut apprendre à nos enfants à les éviter. Où on peut les aider. Vous ne pourrez pas empêcher la déception, la souffrance dans la vie de vos enfants. On la souhaite la moins présente possible, mais elle les attend quelque part au tournant du chemin. Simplement, ben vous devez être là pour eux. Les porter, les accompagner. Donc je voudrais, maintenant qu'on aborde... Ah, vous avez encore 5 minutes de patience? Oui. L'honnêteté. Apprendre à nos enfants à dire la vérité. Ça, c'est pas non plus le capital naissance. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est toujours, c'est pas moi. Vous le voyez faire la bêtise, et il va vous dire, c'est pas moi. Mais enfin, je t'ai vu. Non, c'est pas moi. Et bon, je crois qu'il y a plein de choses qui vont encourager nos enfants à être honnêtes et vrais. C'est déjà notre modèle à nous. C'est aussi la gestion de nos émotions. Si votre enfant, il sait que parce qu'il a fait une bêtise, en fait, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des bêtises, malheureusement, en faisant des erreurs. Et s'il sait qu'il a fait une bêtise, que quand il va vous le dire, vous allez exploser, vous allez le punir de façon immodérée, que vous allez lui crier dessus, que, alors là, cette phrase que j'ai tellement entendue, puisque c'est ça, maman ne t'aime plus. Puisque c'est ça, papa ne t'aime plus. Mais quelle catastrophe! Ne dites jamais ça à vos enfants! Je n'aime pas ce que tu as fait, mais toi, je t'aime. C'est pour ça que je vais te punir. Parce que qui aime bien, châtie bien. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est, hein? Mais non. Mais si on veut que nos enfants soient honnêtes, il faut préparer le terrain. Hein? Maîtrisons nos émotions. Attention à la façon dont nous parlons. Attention à nos réactions. Parfois, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie d'exploser. Quand Mireille elle a vu que Jeffrey avait repassé avec du jus de raisin, franchement, la connaissant, heureusement qu'elle a eu le réflexe de prendre le téléphone et de verser sa colère sur moi. Parce qu'autrement, elle était capable de, peut-être pas de l'étrangler, mais de le secouer sérieusement. Hein? Donc, voilà. Si on veut que nos enfants apprennent à dire la vérité, il faut installer ce climat de confiance. Dire, bon, voilà, tout ce que tu vas faire, ça aura des conséquences, mais je t'aime. Et voilà, gérons vraiment nos émotions. Parce que vous savez, dans la vie d'un enfant, c'est pas un problème pour lui d'être puni. Quand il sait que l'amour de papa et de maman lui est conservé. C'est pas un problème de subir les conséquences de sa bêtise. Au contraire, comme ça, il est dédouané. Il a l'impression que l'affaire est réglée. Mais ce qui est important pour lui, c'est que les relations soient intactes. Il a besoin de votre amour. Il a besoin de votre amour. Et parfois, pourquoi il va mentir? Parce qu'il n'a pas envie de vous décevoir. Il sait qu'il a failli. Mais il n'a pas envie de vous décevoir. Et il veut votre amour. Donc, il va mentir. Et malheureusement, c'est quelque chose, quand on met le doigt dessus, enfin le doigt dedans plutôt, eh bien c'est tellement facile de mentir pour se dire une situation désagréable. Après, on se trouve pris dans des engrenages qui sont complètement fous. Donc, créons justement ce climat de confiance pour que nos enfants puissent dire la vérité. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est juste qu'on a envie que nos enfants soient des ambassadeurs pour Dieu. Et quel est le trait propre d'un ambassadeur, la qualité? Eh bien, c'est qu'ils soient la manifestation de Dieu auprès de leurs prochains, qu'ils puissent être ouverts aux autres, être altruistes. N'accourons pas au moindre cri, bien sûr, ne les laissons pas mourir de soif ou de faim, hein. Mais je veux dire, ne cédons pas leur moindre caprice, expliquons-leur que les autres sont là aussi, que Dieu veut aussi se servir d'eux pour les autres, qu'ils ont une destinée, que Dieu a prévu une destinée pour eux. Et que, bon, moi je rêve pour toi, mon petit, moi j'aimerais que tu fasses ceci, cela. Toi aussi tu as des rêves, mais le plus important, c'est le rêve que Dieu a. Vous savez, quand nos enfants ont commencé à grandir, je me disais, ah Seigneur, si tu me laissais faire, j'achèterais la maison de droite pour Johan, la maison de gauche pour Wendy, je choisirais une épouse pour mon fils, un mari pour ma fille, et on vivrait une joyeuse communauté là. Hein? C'est tentant. Mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les a confiés pour un temps, parce qu'il veut en faire des ambassadeurs de son royaume. Donc préparons-les à tout cela. En les aidant à s'épanouir, en les aidant... Vraiment, on peut construire le caractère de nos enfants. Veillons sur eux au nom de la tendresse. Préparons-leur. Associons-les à quand on va aider quelqu'un, quand on fait quelque chose. Associons-les à nos efforts. Incluons-les dans les travaux de la maison pour qu'ils puissent justement avoir ce cœur ouvert vers les autres. Voilà, si je voulais vous partager ces quelques points. Ça va être la rentrée. Donc, au boulot les parents, au boulot les enfants. Et merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Et pour ceux qui vont arriver. Voilà, soyez bénis.